L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission, le magazine LEM qui plonge vos oreilles dans le Finistère, avec toujours en cette 9e saison les invités de la première partie. Et le mardi, une fois par mois, cette saison, on vous propose une émission en partenariat avec l'association Les Petits Débrouillards du Grand Ouest. C'est une association qui fait de la vulgarisation, de la médiation, des sciences et des techniques. Le thème de cette série d'émissions, c'est l'adaptation au changement climatique. Donc les sciences abordées sont très variées. Ça va de la climatologie, bien sûr, de l'écologie à la biologie, avec beaucoup de sciences humaines aussi, et en particulier aujourd'hui, nous aurons des sciences politiques puisque nous allons nous pencher sur la façon dont on décide de ces mesures d'adaptation qui seront prises. Nous sommes encore en démocratie, donc les décisions supposent une concertation. C'est une émission enregistrée avec deux invités à distance. Adèle Tanguy, qui est chercheuse à l'IDRI, c'est l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales, un laboratoire d'idées, un think tank si vous préférez. Et puis il y a aussi Maud Gatel, qui est coordinatrice de projet pour les Petits Débrouillards Grand Ouest à l'antenne de Lorient. Adèle Tanguy, d'abord, elle rencontre beaucoup d'élus, de politiques avec d'autres scientifiques, pas seulement en France, pour éclairer les décisions sur l'adaptation au changement climatique. Mais étant donné l'urgence climatique, j'ai commencé par lui demander s'il était encore temps de débattre.
Alors, il y a une importance quand même à mettre en discussion les solutions d'adaptation, parce que finalement, on a tendance à considérer que l'adaptation, c'est une réponse unique, c'est presque une réponse un peu technique à un problème qui va nous arriver. Or, c'est pas le cas du tout. Il y a quelque chose de très social et politique dans la nature même de l'adaptation. En fait, l'adaptation à un risque, qu'est-ce que c'est exactement ? Le risque climatique, c'est la combinaison de l'aléa climatique, donc peut être lié justement à des phénomènes météorologiques qui vont s'intensifier, comme des pluies intenses, qui vont créer des inondations, des températures plus élevées, des vagues de chaleur. Et en fait, cet aléa, il va rencontrer des facteurs d'exposition. Donc, il va y avoir des enjeux qui peuvent être exposés à cet aléa, que ce soit des habitations, des populations, des écosystèmes, donc dans des espaces ou dans des contextes qui vont être soumis à l'aléa, qui sont pas forcément d'ailleurs exactement dans la zone géographique de l'aléa. Et à ces deux enjeux-là vont s'ajouter des facteurs de vulnérabilité. Donc c'est la propension à être plus ou moins affecté par l'aléa. Et cette vulnérabilité-là, elle dépend aussi de caractéristiques économiques, sociales, culturelles, de modes de gouvernance. Donc par exemple, si on regarde une inondation sur des habitations, ça va pas du tout être la même chose si on parle d'habitations en dur, dont le rez-de-chaussée est pas utilisé pour se protéger des inondations, ou si on parle d'une zone d'habitat informelle, faite de matériaux pas forcément en dur. Et donc là, il va y avoir une plus forte vulnérabilité. Donc répondre au risque climatique, s'adapter au risque climatique, c'est aussi et surtout répondre aux causes profondes de vulnérabilité. Et donc, ça demande en fait une action en termes de politiques qui sont aussi des politiques sociales, de lutte contre les inégalités. Et donc, ça, il y a un besoin en fait de se rendre compte qu'il n'y a pas uniquement une réponse technique qui va nous permettre de nous protéger des risques climatiques. Et donc, par exemple, si on parle de la montée du trait de côte, on pourrait se dire que s'adapter, c'est créer des digues. Bah, pas forcément, en fait. Il y a aussi le fait de se dire que la digue, elle va tenir jusqu'à un certain moment, mais que si on se retrouve dans des scénarios climatiques plus pessimistes, avec des niveaux de réchauffement plus élevés, une montée du niveau des mers plus élevée, il y a un moment où la digue, de toute façon, elle lâchera, ou alors il faudra la rehausser à chaque fois. Et en fait, il y a des actions d'adaptation qui peuvent être prises, qui sont différentes, qui sont pas forcément des actions de protection, qui pourrait par exemple être le retrait côtier, donc dire qu'on va retirer les activités de la zone qui est exposée. Et ça demande de préparer les mentalités, ça demande de réfléchir au foncier, où est-ce qu'on déplace les gens, où est-ce qu'on dépasse les activités, de laisser le temps aux identités qui sont très liées au territoire de se restructurer. Donc, ça demande d'avoir une action aussi sur, en coordination, en fait, avec les populations, et de réfléchir justement à toutes ces questions culturelles, politiques, sociales. Donc, on ne peut pas l'imposer de manière descendante en se disant que ça va forcément fonctionner sans prendre le pouls de la manière dont c'est reçu par la population. Et en plus de ça, donc là, on voit bien que, en fait, face à un même problème, on peut avoir plusieurs stratégies de réponse. On parlait de la protection, de l'abandon de l'espace, le rendre à la nature, retirer les activités. Et ça, c'est des choix qui doivent être mis en débat, en fait. Et il faut que, justement, tous les acteurs concernés qui vont devoir prendre part à la solution puissent être impliqués et réfléchir à comment se répartissent les coûts, les bénéfices de cette action au sein des acteurs concernés et de la population, comment on fait pour que ça se passe bien, pour que chacun prenne sa part, comment on attribue les responsabilités parmi les différents acteurs. Et donc, tout ça, ça demande du dialogue. Alors, en effet, c'est des choses qui prennent du temps, mais de toute façon, c'est des étapes qui sont nécessaires pour ces solutions un peu plus transformationnelles qui, elles aussi, prennent du temps.
Et pour ne pas se tromper de solutions d'adaptation, donc on s'appuie sur les scientifiques, et c'est pareil, de ce côté-là, il faut que toutes les sciences, en fait, soient impliquées, c'est ça ?
Oui, ça demande que toutes les sciences soient impliquées, autant pour pouvoir identifier les limites biophysiques du système, à quel moment est-ce que, en fait, on ne pourra plus s'adapter, à quoi est-ce qu'on ne pourra plus s'adapter, pouvoir dire que, bah, par exemple, en effet, la digue, il y a un niveau où elle ne va pas tenir, à quel va être ce niveau-là, pouvoir justement mesurer et avoir une idée des risques futurs auxquels on s'expose aussi, mais donc mêler les sciences sociales, les sciences économiques et avoir aussi une idée de ce que c'est que la maladaptation. C'est ce qui transparaissait un petit peu dans la discussion, mais la maladaptation, c'est le fait que face à un risque, en fait, on pense que certaines solutions vont nous apporter la bonne réponse, mais on se rend pas compte qu'elles vont soit augmenter le risque ou alors empêcher des réponses pour plus tard en nous engageant dans une trajectoire de dépendance. C'est le fait, par exemple, de créer un sentiment de protection et donc développer plus d'activités juste derrière la digue. Et le moment où elle va lâcher, bah, finalement, on va se retrouver avec encore plus d'enjeux impactés. Ou alors rendre plus vulnérables des groupes sociaux qui n'ont pas été envisagés dans la réponse d'adaptation, des territoires qui sont à côté et on n'aurait pas pensé que ça allait justement reporter le risque sur ces territoires-là, ou alors augmenter les émissions de gaz à effet de serre, ça peut aussi être un facteur de maladaptation en se disant qu'en fait, on augmente le changement climatique et donc on diminue notre capacité à y faire face plus tard. Donc par exemple, on pense aux solutions de climatisation qui sont aussi des maladaptations.
Et 130 jeunes ont encore débattu de cette question du 15 au 19 avril 2025 au Parlement européen. Maud Gatel, en tant que coordinatrice des Petits Débrouillards à Lorient, on imagine que les Petits Débrouillards font des expériences scientifiques avec leur public, hein, ce qui est le cas, mais il y a aussi tout un volet éducation à la démocratie, au débat scientifique avec les jeunes notamment.
En effet, en fait, on a participé notamment l'année dernière à la Commission nationale du débat public sur en fait la stratégie de façade par rapport au littoral français. Et dans ce cadre-là, on a mené en fait plusieurs actions dans des lycées, des collèges pour amener au débat, récolter les arguments en fait hein, des collégiens et des lycéens. Et retransmis après à la Commission nationale du débat public. Donc ça, c'est une des activités possibles, mais il y a eu d'autres activités autour du débat, notamment bah, lors de la COP 15 à Paris. On avait des actions qui étaient COP in my city, où on faisait des simulations de COP climat.
Alors comment ça se passe, ça, une simulation de COP climat ?
Les participants reçoivent en fait des fiches de rôle et ils représentent un État. Et puis, en fait, ils ont voilà, certaines consignes à suivre pour ensuite trouver une manière de prendre des décisions en commun, comme dans une vraie COP. Donc là, il y avait la COP in My City au moment de la COP à Paris, mais on a fait aussi, là, depuis quelques années, des COP autour de la biodiversité. Et notamment, on a refait plusieurs fois la COP 16 biodiversité qui s'était déroulée à la base en Chine et au Canada, parce que c'était au moment de la pandémie, donc ça s'était déroulé en deux étapes. Et donc, on a refait ces COP-là plusieurs fois, en fait, avec des collégiens et des lycéens. Et là, bon, je peux en parler un peu plus parce que j'ai beaucoup animé ce programme. Ça se déroulait sur plusieurs séances. D'abord, une première séance pour comprendre un peu les enjeux au niveau de la biodiversité, au niveau mondial. Une deuxième séance où on va plus travailler l'argumentaire. Donc, on va faire des débats. On peut faire aussi des concours de mauvaise foi. C'est-à-dire que là, les élèves doivent défendre en fait un point de vue que eux ne partagent pas forcément. Mais en fait, c'est de se mettre à la place d'eux. Et c'est aussi de peut-être, en faisant ce travail-là, de peut-être se rendre compte de différents biais qu'on peut avoir quand on argumente. Et puis aussi de prendre conscience des enjeux de chacun et chacune. Ça peut être des enjeux économiques, notamment voilà, pour certains pays. Il y a des forts enjeux au niveau que ce soit biodiversité ou climat. Certains pays ne sont pas forcément prêts à arrêter leur économie parce que ils ont besoin de se développer. Donc il y a une autre séance vraiment sur plus de travail d'argumentaire et puis de préparation de discours parce qu'après le moment de la COP, la simulation, ils vont vraiment intégrer en fait le personnage de chef d'État ou représentant et ils vont devoir faire un petit discours où ils vont exposer les enjeux et ce qu'ils souhaitent mettre en avant pendant la simulation COP. Et après il y a une phase où par groupe d'une dizaine, ils vont se mettre d'accord sur un texte à adopter. C'est-à-dire qu'on a des phrases qui sont préécrites et puis ils doivent choisir le vocabulaire à employer. Par exemple, ce n'est pas la même chose d'arrêter les émissions de CO2 d'ici 2030 que de limiter les émissions de CO2 progressivement. Voilà, ça ne veut pas du tout dire la même chose. Et ça, c'est aussi comment on aborde ce vocabulaire avec les jeunes.
Et il y a combien de pays qui sont en général représentés dans ces simulations de COP et puis quel type de pays ?
Alors en général, il y a une dizaine de pays pour qu'il y ait quand même une variété. Quand c'est avec des collégiens, des lycéens, on essaye de les mettre deux ou trois par pays. Et comme ça, après, quand on fait les petits groupes de négociation, ils peuvent se séparer sur des thématiques. Par exemple, l'agriculture, la pêche, la production d'objets plastiques. Et du coup, au niveau des pays, on va mettre des pays qu'on dit plutôt du sud ou des pays en voie de développement, comme on disait un moment, en fait, des pays comme l'Indonésie, par exemple, ou des pays comme Madagascar. Et puis, en même temps, il va y avoir aussi des pays comme la Chine, les États-Unis, la France, le Canada, le Brésil. L'Afrique du Sud, en fait, à chaque fois, là, en tout cas sur les COP biodiversité, c'est aussi des pays qui ont, partout sur la planète, mais principalement ces pays, c'est des pays avec des biodiversités assez fortes et qui ont du coup des intérêts à ce que la biodiversité se porte bien également dans leur pays, parce que c'est aussi des valeurs au niveau du tourisme, une valeur touristique. Et puis, ils n'ont pas forcément les mêmes intérêts économiques et pas la même responsabilité par rapport à la dégradation de la biodiversité ou de la part de responsabilité dans les émissions de CO2.
Et comment ils réagissent, toi, justement, ces jeunes collégiens, lycéens, avant, après les simulations de COP ?
Alors avant, ça dépend vraiment des collégiens. Alors il y a certaines qui peuvent avoir aussi ils peuvent se dire qu'en fait ça les intéresse pas du tout, dans le sens où ils se sentent pas concernés, que c'est trop loin. Et ça, et d'où l'importance après quand on débriefe après ce type d'action, de vraiment remettre les choses au niveau d'un contexte local, de voir les actions qui se font en fait dans notre ville. De ce que chacun, chacune est prêt aussi à faire à faire voilà, à son échelle. Et puis sinon, il y a aussi des jeunes qui connaissent déjà, qui s'intéressent en fait à ces thématiques-là, mais qui peuvent avoir aussi bah, parfois des préjugés, enfin, voilà, ou des idées reçues sur certains pays. Et puis bah, voilà, c'est aussi là par de la documentation qu'on leur apporte d'aller un peu plus loin, quoi. Et puis aussi de se mettre à la place des autres pour un peu déconstruire les préjugés qu'on peut avoir.
Et les petits débrouillards proposent des jeux comme Imagine ta ville ou Climat solidaire. Est-ce qu'on peut en avoir un petit aperçu ?
Alors, je vais commencer par Climat solidaire parce que là, justement, ça se passe à l'échelle mondiale. Là, l'idée de Climat solidaire, c'est de répartir un peu les richesses, les ressources suivant, on va dire, les continents. Et de mettre aussi en avant la responsabilité au niveau des émissions de dioxyde de carbone depuis 1800 à peu près. Et donc de mettre comme ça en avant, dans une première phase en fait, de mettre en avant les inégalités, que ce soit en termes de ressources ou de responsabilités par rapport au changement climatique. Et ensuite, il y a une deuxième phase qui va être sur... les solutions d'adaptation. En gros, il y a des aléas qui arrivent avec certains événements, certaines catastrophes suivant les continents. Et après, quand des catastrophes arrivent, les participants en fait ont la possibilité de partager leurs richesses pour aider les autres pays à trouver des solutions d'adaptation ou à financer des solutions d'adaptation. Donc c'est un travail autour de tout ce qui est justice climatique. C'est voilà, comment on se met d'accord pour qu'on puisse vivre tous ensemble dans une planète qui va bien. Pour construire voilà, une société en fait, qui est plus juste et plus durable, quoi.
Et Imagine ta ville alors ?
Et Imagine ta ville, alors là c'est plus à l'échelle locale, parce que là c'est à l'échelle d'une ville. Les participants vont, ça c'est plus sur un jeu de plateau par contre, c'est pas forcément un jeu de plateau qui met, une activité qui met, pardon, jeu de plateau et jeu de rôle. Donc il y a une première phase de plateau où en fait ils vont avec des petites tuiles, ils construisent leur ville avec ce qu'il faut comme pour répondre aux besoins immédiats des habitants. Et bien, pareil, il y a des aléas qui vont arriver, des événements, par exemple une canicule, une prolifération, une période de grande émission de pollen ou une inondation, voilà, ce genre d'aléas. Et puis, les participants doivent prendre des décisions pour contrer ces aléas et trouver en fait comment on s'adapte à ces aléas. Et pour ça, ils doivent se mettre d'accord entre eux sur quelles solutions ils vont choisir. Alors les jeunes n'ont pas forcément en tête comme ça des solutions, donc on leur a préparé en fait des documents avec des exemples de solutions qu'ils peuvent appliquer, soit en tant que citoyens, citoyennes, par exemple ça peut être sur de la pratique autour de la prévention des risques ou sur des économies d'énergie ou d'eau, ce genre de choses. Mais ils ont aussi un rôle, chaque participant a un rôle qui est plus expert ou experte, comme par exemple urbaniste, sur la gestion des espaces verts ou des énergies, ou sur le tourisme, le patrimoine, voilà, différents rôles. Et là, on leur a mis en fait des exemples d'actions que nous, on a trouvées en fait dans les exemples que les villes mettent en place actuellement hein, pour l'adaptation au changement climatique. Et donc comme ça, ils peuvent piocher en fait dans ces exemples-là. Ils ont aussi la possibilité de rajouter des idées à eux. Et donc, ils se mettent d'accord sur qu'est-ce qu'on va mettre en place, en sachant qu'ils ont un budget qui est délimité.
Est-ce qu'il y a d'autres activités de débat qui sont proposées par les petits débrouillards ?
Alors, je ne dirais pas toutes nos animations, mais pas loin. On met toujours en fait, des petits moments de débat, soit sous la forme de débat mouvant, où voilà, on lance une phrase et en fait, les personnes sont d'accord ou pas d'accord, donc elles vont se positionner. Et puis après, chaque gros côté, on va dire, argumente, lance voilà, un argument et les gens ont la possibilité de rebasculer de l'autre côté ou pas. Donc c'est une manière aussi d'écouter de manière, on va dire, plus attentive les arguments des autres, et puis avoir la possibilité de se dire, bah, en fait, ces personnes-là, elles ont raison, je vais plutôt changer de côté. Ou on peut être d'accord avec un argument, pas forcément avec l'opinion générale ou la position générale, mais en tout cas, au moins avec les arguments, reconnaître les bons arguments de tout le monde. Donc, il y a ça. Après, ce genre de choses, on l'utilise sur plein de thématiques, donc sur l'éducation à l'environnement, mais aussi sur le vivre ensemble. Enfin, voilà, les discriminations, les stéréotypes, le numérique aussi, l'utilisation du numérique, voilà, sur plein de thématiques. Donc, il y a les débats mouvements, mais on a aussi d'autres formes de débats, des cercles de Samoan, où là, par exemple, il y a juste un petit groupe qui discute au milieu, et puis tous les autres sont autour, et il y a une chaise dans le groupe du milieu, il y a une chaise qui est libre, toujours pour une autre personne qui veut participer au débat. Et donc, à chaque fois, une autre personne rentre, et dans ce cas-là, bah, il y a une personne qui était au centre du cercle qui doit s'en aller pour laisser sa place à quelqu'un d'autre. Et ça permet, voilà, pareil, d'être attentif, en fait, aux arguments de toutes et tous. Je pense qu'il y a beaucoup ça dans l'éducation à l'environnement et dans tout ce qui va être aussi éducation à la citoyenneté mondiale, en fait, de montrer à la fois que, ben voilà, le monde, il est complexe, il y a plein d'interactions, il y a plein d'enjeux, et du coup, ben, c'est de prendre en compte toutes les composantes, en fait, hein, d'un système.
Adèle Tanguy, vous êtes donc chercheuse à l'IDRI, Institut de Développement Durable et des Relations Internationales, et vous travaillez notamment sur le PNACC, le Plan National d'Adaptation au Changement Climatique. Sur la question des échelles de débat et de décision, vous plaidez pour que ça se fasse à toutes les échelles, et même entre pays de façon transfrontalière, puisque le climat n'est pas délimité par les frontières. Mais comment est-ce que vous voyez la répartition des types de décisions sur l'adaptation au changement climatique à toutes les échelles, de la petite commune à l'international ?
Alors, tout à fait. On a souvent dit que l'atténuation, c'était un enjeu global, international, alors que l'adaptation, c'était un enjeu local. Alors, il y a un petit peu de vrai dans le sens où, en effet, l'atténuation, ça concerne les gaz à effet de serre et la santé de l'atmosphère, qu'on peut considérer comme un bien public mondial, et où, en fait, l'action de chacun va bénéficier à tous. Et si la France réduit ses émissions de gaz à effet de serre, tant que les autres pays très émetteurs ne le font pas, en fait, on n'aura pas plus de bénéfices de notre action que les autres. Alors que l'adaptation, on parle de risques climatiques qui s'inscrivent dans des contextes locaux très précis. Donc, on ne va pas du tout pouvoir mettre en œuvre les mêmes solutions en Asie du Sud-Est et en France, et même a fortiori dans le sud de la France, en Bretagne. Donc, il y a en effet un caractère local où il faut prendre en compte les spécificités de chaque territoire. Mais ce que je disais tout à l'heure sur la maladaptation rejoint le fait que parfois, il y a des territoires qui ont soit des ressources qui sont partagées, soit des flux de biens, de services, de denrées alimentaires, de populations, qui donc connectent ces territoires entre eux et qui font que les risques climatiques peuvent en fait passer d'un territoire à l'autre, déplacer les vulnérabilités, se reporter sur d'autres territoires. Voir les réponses d'adaptation dans le territoire peuvent aussi avoir des effets positifs ou négatifs, en fonction de comment elles sont pensées, sur d'autres territoires. Donc c'est le cas, par exemple, des importations de riz en Afrique de l'Ouest depuis l'Asie du Sud-Est. En 2008, quand il y a eu une crise de la production, eh bien les pays d'Asie du Sud-Est, en fait, se sont un peu renfermés et ont moins exporté. Et donc, ça a créé une crise alimentaire jusqu'en Afrique de l'Ouest. Donc, en fait, il peut y avoir des vulnérabilités qui se répercutent en cascade et qui impactent d'autres pays. Et ça demande ça de penser l'adaptation à l'échelle territoriale qui est pertinente. Donc, par exemple, si on regarde une crue de la Seine, en fait, c'est pas uniquement les bords de Seine qui vont être impactés, mais Paris étant tellement interconnecté avec déjà toute la zone de la métropole et la zone périurbaine, mais aussi toute la France. En fait, si on veut penser des réponses d'adaptation, il faut regarder quelles sont les vulnérabilités croisées au niveau du territoire métropolitain et qui va être affecté, par exemple, si les réseaux de transport, les réseaux de télécommunications sont affectés. Et imaginez que ça ne va pas affecter que les habitants de Paris. Et donc, qui est-ce qu'on indemnise? Comment est-ce qu'on gère justement le rétablissement des services? Comment on fait pour que les gens puissent avoir quand même un accès à des soins, à leur travail? Donc, c'est plein de questions qui se posent et qui ne doivent pas uniquement se caler sur la zone de l'aléa. Et donc, si on regarde au niveau international, mais même au niveau national, en fait, en termes de réponse, ça demande déjà d'avoir une connaissance de ces risques partagés et puis d'avoir une répartition claire des rôles, des responsabilités tout au long de la chaîne de l'impact. Donc vraiment voir en fait comment un impact peut se propager d'un pays à un autre et identifier en fait quels sont les acteurs tout au long de cette chaîne et quel rôle est-ce qu'ils vont jouer dans une adaptation qui serait bénéfique in fine à toutes les personnes impactées et réfléchir derrière à comment les coûts et les bénéfices de l'adaptation se répartissent tout au long de cette chaîne de l'impact. Et donc aussi être en capacité de mettre en discussion le fait que voilà, il y a certains territoires qui sont plus ou moins vulnérables que d'autres. Il y a certains territoires qui ont une plus grande ou une plus faible capacité à s'adapter, même une capacité financière. Et donc, comment on fait pour rééquilibrer ces déséquilibres et créer aussi une certaine solidarité tout au long de la chaîne du risque pour faire en sorte que l'adaptation, en fait, ce soit quelque chose de commun à tous ces acteurs-là et que ce soit pas chaque maillon de la chaîne qui va s'adapter dans une sorte de geste de repli sur soi, de manière un peu individuelle, en fait.
Et qu'est-ce qui fait qu'une décision qui a été prise lors d'un débat va se transformer en mesures concrètes et bien appliquées sur le terrain en matière d'adaptation, toujours ?
Ça pose la question de la mise en œuvre. Et d'ailleurs, c'est une bonne question qu'on peut se poser aussi sur le plan national d'adaptation au changement climatique qui vient de sortir. Parce que dedans, donc, il y a des orientations, des directions, des bonnes volontés, même s'il y a encore plein de choses qui seraient perfectionnables. On est déjà beaucoup plus avancé que ce qu'on l'était au moment du deuxième plan. Mais donc là, on se pose la question de qu'est-ce qu'on va en faire et comment on fait pour que ce qu'il y a dedans, ça se passe vraiment. Et donc ça repose sur plusieurs choses. Déjà, ça repose sur des cadre de gouvernance et une répartition justement des rôles entre les différents acteurs qui est assez claire pour que chacun ait la responsabilité des actions qui vont permettre que de manière coordonnée ça se passe. Mais ça demande aussi des moyens et des capacités pour soutenir la mise en œuvre de ces actions, que ce soit des moyens financiers. Et donc ça, les collectivités territoriales notamment, qui était assez centrale dans le plan national d'adaptation au changement climatique, en parle beaucoup en disant « mais nous, on veut bien participer à l'adaptation, on veut bien en faire plus, être plus ambitieux en termes d'action, mais on a besoin de soutien financier pour faire ça. Donc, est-ce qu'il y a des budgets supplémentaires ou est-ce qu'on doit fonctionner avec les mêmes budgets? Mais dans ce cas, est-ce qu'on doit réarbitrer différemment? Est-ce que ça veut dire qu'il y a d'autres priorités qui vont être moins financées ?» Mais au-delà des moyens financiers, ça demande aussi des moyens de personnel, de formation, d'information. Et donc d'ailleurs, dans le plan national d'adaptation au changement climatique, il y avait cette idée de créer une mission adaptation qui serait un regroupement de toutes les agences de l'État qui travaillent sur l'adaptation pour offrir une offre de services aux collectivités pour les orienter et les guider dans leurs actions d'adaptation. Et ça, c'est vraiment une avancée assez importante parce que ça va permettre en fait aux collectivités d'avoir accès à cette information. Le problème, c'est que cette mission adaptation, elle est censée se faire à budget constant pour les agences de l'État. Donc, c'est des agences qui, d'ailleurs, voient leurs enveloppes diminuer et donc elles vont avoir finalement autant, voire moins d'argent pour en faire plus et appuyer les collectivités dans leurs actions d'adaptation. Donc, c'est en même temps une avancée et en même temps, on peut se demander si ce sera réellement mis en œuvre de manière efficace et ambitieuse. Et un dernier enjeu qui est important à regarder quand on se pose ces questions-là de mise en œuvre, c'est la question du suivi-évaluation. Quels indicateurs on se met, quel cadre on met pour assurer le suivi des actions, pour vérifier régulièrement qu'on est bien en chemin pour faire les actions qu'on s'était données à réaliser, et comment on évalue que ces actions elles contribuent réellement à l'objectif d'adaptation auquel on voulait parvenir. Et donc ça demande aussi d'avoir mis en place un processus de suivi qui soit assez régulier en fait, et que ce soit pas uniquement dans 5 ans, quand il faudra faire un nouveau plan d'adaptation, qu'on vérifiera si toutes les actions du précédent ont été mises en œuvre ou pas, mais être en capacité justement au cours de la vie du plan de vérifier où est-ce qu'on en est, de vérifier si il y a certaines opportunités qui ont été manquées, si il y a des nouvelles actions qu'il faut mettre en œuvre aussi pour se permettre de se remettre dans la bonne voie, dans le bon chemin, si on a pris du retard sur certaines choses. Donc ça demande vraiment d'avoir ce processus de discussion au fur et à mesure de la vie du plan.
Cette émission est à réécouter sur le site internet de Transistor, avec les autres émissions que nous réalisons avec les petits débrouillards autour de l'adaptation au changement climatique. Et la prochaine est prévue pour le 13 mai.